Y así estamos poniendo punto final a la revista Cuba Online. Trabajamos con mucho placer Jesús de Armas en la realización del sonido. Un equipo de periodistas y colaboradores, guión y dirección, Manuel Andrés Mazorra. Y somos sus locutores,
Edier Hernández
y Osvaldo Díaz Fondora. Le damos las gracias por la sintonía y lo esperamos de lunes a sábados, siempre a las 11 ante meridiano, hora de Cuba. Tenga usted muy buenas tardes.
Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
A continuación, Radio Habana Cuba comienza su programación en idioma francés por onda corta, frecuencia modulada e internet.
Un grand salut depuis la Havane, chers amis. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à l'écoute. Avant tout, un rappel historique. Le 19 avril 1961, Cuba remportait une importante victoire sur une invasion organisée et financée par le gouvernement des États-Unis. En moins de 72 heures, les forces armées révolutionnaires de notre pays, avec à la tête le commandant en chef Fidel Castro, ont mis en échec 1500 mercenaires qui avaient débarqué dans la baie des Cochons. C'est la première grande défaite de l'impérialisme yankee en Amérique. Quoi qu'on en dise, après la baie des Cochons, les peuples des Amériques sont devenus un peu plus libres, à les souligner un peu plus tard Fidel Castro, leader historique de la révolution cubaine. Voyons maintenant notre programme. Un journal parlé à deux volets donne le coup d'envoi de l'émission, conformément à nos habitudes. Le premier, consacré à l'actualité nationale, titre à la une sur la réaffirmation par Cuba de sa politique de tolérance zéro aux stupéfiants. Ensuite, notre tour d'horizon de l'actualité internationale s'est fait l'écho de la réunion du Conseil de sécurité sur l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Une initiative qui a eu l'approbation de la majorité, mais qui n'a pas réussi à cause du veto des États-Unis. Et vers la fin de l'émission, nous partageons avec vous un commentaire sur les ventes d'armes aux États-Unis. Après ce sommaire de nos programmes, on vous en pose. Bonne réception. Je vous encourage vivement à rester à l'écoute. Voici tout de suite notre journal parlé.
Politique de tolérance zéro à l'égard des drogues, c'est pourquoi elle soutient la lutte contre le trafic des stupéfiants et promeut l'éducation de la population et la prévention comme stratégie de confrontation. Selon le colonel Juan Carlos Puey, chef de l'organisme spécialisé dans la lutte contre la drogue du ministère de l'Intérieur, bien que ce pays des Caraïbes ne soit pas un producteur de ces substances, sa situation géographique le place à un point intermédiaire entre les pays d'origine, du trafic de drogue au sud et le plus grand consommateur, les États-Unis, au nord. Il a affirmé que suite aux opérations menées contre les trafiquants de drogue en haute mer, des cargaisons de drogue sont souvent lancées et échouées sur la côte cubaine, principalement au nord des provinces de Guantanamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey et Ciego de Ávila. Dans la partie occidentale de l'île, ces rappels le long de la côte nord se produisent principalement dans la zone de Mariel, dans la province d'Artemisa, et dans le sud, à Pinar de Río, dans la municipalité spéciale de Isla de la Juventud, et à Ciénaga de Zapata, à Matanzas, a déclaré le fonctionnaire à l'émission AC Moscou de la télévision nationale. Cependant, a-t-il ajouté, des Cubains vivant à l'étranger ont tenté d'introduire de la drogue par voie maritime et aérienne, principalement dans la partie occidentale du pays, et a signalé que 3 opérations de ce type ont été interceptées en 2023. Il a précisé que cette activité avait touché plusieurs aéroports internationaux de l'île des Caraïbes l'année dernière par le biais d'expéditions de fret et de colis non accompagnés. Le colonel a souligné que Cuba dispose de la technologie et du personnel qualifié pour détecter l'entrée de tous les types de drogues. Pour le spécialiste en psychiatrie et en santé mentale communautaire Alejandro García, il y a une tendance à la baisse de l'âge de la consommation qui se situe désormais entre 13 et 14 ans et chez les femmes. Il s'agit d'une tendance mondiale, mais qui n'a pas été observée à Cuba, de même que la polyconsommation, mélange de différentes substances qui compliquent les tableaux cliniques. L'expert, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la prise en charge de patients toxicomanes, a indiqué que la perception du danger est faible dans les familles et les a invités à être attentives aux symptômes d'intoxication qui apparaissent souvent à la suite de la consommation des stupéfiants. Pour sa part, le vice-ministre de l'Éducation, Eugenio González, a affirmé que les écoles disposent d'un protocole de diagnostic et de caractérisation dans lequel les élèves et les enseignants sont formés à la détection de ces cas. Il a souligné que les réunions des parents dans ces centres devraient être un espace pour influencer la communauté et que les institutions éducatives devraient devenir un scénario pour identifier les risques, bien que, a-t-il dit, les cas dans les écoles aient été très spécifiques. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a analysé les problèmes de transport dans l'émission « Depuis la présidence » diffusée jeudi sur les sites YouTube du gouvernement cubain. Ce troisième épisode aborde la question des transports à un moment reconnu comme l'un des plus difficiles de ces dernières années après l'impact de la pandémie, la crise économique mondiale, les effets du blocus économique des États-Unis, en plus des déficiences internes, a déclaré la présidence cubaine sur sa propre chaîne YouTube. Le président cubain, hôte de l'émission, et le ministre des Transports, Eduardo Rodríguez, ont examiné la question de manière critique et expliquent les perspectives d'une activité qui transcende l'ensemble de la vie économique et sociale de la nation dans l'optique de mettre un terme à la détérioration que le secteur a connue au cours des dernières années. Bruno Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères, a condamné l'application des mesures coercitives unilatérales contre le Venezuela par le gouvernement nord-américain. Par le biais de son compte officiel sur X, le ministre des Affaires étrangères a exigé la levée totale et immédiate de toutes ces mesures, arguant qu'elles nuisent au bien-être du peuple vénézuélien. Roberto Morales Ojeda, secrétaire de l'organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba, a également exprimé son rejet des sanctions nord-américaines à l'encontre de Caracas. Notre solidarité avec le Parti socialiste unifié du Venezuela et le peuple vénézuélien frère, a ajouté le dirigeant du Parti cubain dans un message sur X. La veille, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas la licence dite 44 qui autorisait les transactions liées aux opérations du secteur pétrolier ou gazier au Venezuela. Les États-Unis ont déterminé que Nicolas Maduro et ses représentants n'ont pas pleinement respecté les engagements pris dans le cadre de l'accord sur la feuille de route électorale signé par les représentants de Nicolas Maduro et de l'opposition à la Barbade en octobre 2023. Indique le communiqué publié par Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Pour sa part, le gouvernement vénézuélien assure qu'il a pleinement respecté les accords signés, ce qui aurait dû conduire à la levée totale des sanctions nord-américaines. Nicolas Maduro, président de la nation sud-américaine, a dénoncé la licence 44 du gouvernement nord-américain comme étant colonialiste, car elle vise à contrôler l'industrie pétrolière nationale. Le président cubain Miguel Díaz-Canel est arrivé jeudi à Sandino, à Pinar del Río, dans le cadre des tournées de la direction du Parti communiste de Cuba pour évaluer les expériences et contribuer à la résolution des problèmes. Le président était accompagné par Roberto Morales Ojeda, membre du bureau politique et secrétaire à l'organisation du comité central du parti. Sandino est la quatrième municipalité que le président cubain visite à Pinar del Río depuis le début de l'année, après San Luis, Consolación del Sur et Minas de Matahambre. Le premier point de la visite a été l'entreprise de base La Fe de l'entreprise agroforestière Guanacavives qui possède 21 000 hectares dont 71% sont plantés. En outre, elle diversifie sa production en construisant des maisons et des séchoirs de tabac, entre autres. Au cours de la visite, le président du Conseil d'État et des ministres a visité l'une des pépinières de l'entreprise où sont reproduits des échantillons pour les plantations. Il a insisté sur la nécessité de planter des cultures plus résistantes aux intempéries et d'augmenter le nombre de têtes de bétail locales en profitant dans les deux cas de toutes les zones. C'est à nous d'avancer et de progresser, a déclaré le président cubain en dialoguant avec les habitants de Sandino, à qui il a expliqué les résultats de la visite et les efforts du pays pour défier l'impact du blocus nord-américain. Le gouvernement cubain a approuvé jeudi 62 nouveaux acteurs économiques en tant que micro, petites et moyennes entreprises afin de stimuler la production de biens et de services dans le pays. Le ministère de l'Économie et de la Planification a indiqué sur son site Internet que 59 d'entre elles sont des micro, petites et moyennes entreprises privées et 3 appartiennent à l'État. Avec une croissance rapide depuis leur approbation en 2021, ces formes de gestion économique opèrent actuellement dans diverses branches, notamment la production alimentaire, le recyclage et la récupération des matières premières, l'importation et l'exportation et la vente d'assortissements divers, les activités de programmation informatique, le jardinage et la fabrication des matériaux de construction. Les 35 premières micro, petites et moyennes entreprises ont été autorisés en septembre 2021. Deux ans plus tard, à la clôture de septembre 2023, le ministère d'Économie et de Planification a notifié près de 9000 entreprises de cette nature dans les 15 provinces et dans 167 des 168 municipalités du pays et le chiffre actuel s'élève à 11 118. Les analyses de l'Assemblée nationale au Parlement sur les sujets indiquaient qu'en 2023, les secteurs privés et coopératifs auxquels appartiennent les micro, petites et moyennes entreprises représentent environ 13% du produit intérieur brut et environ 8% des importations. Les domaines dans lesquels les micro, petites et moyennes entreprises sont les plus présentes sur l'île sont la gastronomie, la construction, les industries manufacturières et la production industrielle d'aliments et de boissons.
Vous écoutez le journal parlé de Radio Vancouver. Voici la suite des informations.
Les États-Unis ont bloqué jeudi l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Au cours d'une réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis ont en effet opposé leur veto à la proposition introduite par l'Algérie au nom des pays arabes. Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens, qui ont depuis 2012 les statuts inférieurs d'États non membres observateurs, ainsi que les pays arabes, demandaient au Conseil d'accepter qu'un État palestinien, déjà reconnu par la majorité des capitales, prenne sa place légitime au sein des Nations Unies. Washington a ainsi, une fois de plus, protégé son allié israélien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé jeudi une mise en garde sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les derniers jours ont vu une escalade dangereuse par les mots et les actions, a signalé le chef de l'ONU lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Il a dénoncé dans les termes les plus forts l'opération israélienne dans les territoires palestiniens, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat, à l'accès sans entrave de l'aide humanitaire et à la libération de tous les otages. Il a souligné que 2 millions de Palestiniens endurent la mort, la destruction, le déni d'aide humanitaire vitale et la faim. Les frappes israéliennes ripostant à l'attaque du Hamas du 7 octobre ont fait près de 34 000 morts, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. Une erreur de calcul, une mauvaise communication, une méprise pourrait conduire à l'impensable, un conflit régional généralisé qui serait dévastateur pour tous ceux concernés et pour le reste du monde, a-t-il signalé d'autre part en se référant à la riposte de l'Iran à l'attaque israélienne contre son consulat à Damas. Le Venezuela a rejeté ce jeudi la prétention des États-Unis de contrôler et manipuler son industrie pétrolière par des billets des mesures coercitives. Dans des déclarations à la presse, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Krill, a dénoncé la réimposition par Washington des sanctions qu'il a qualifiées de pratiques conformes à une vision colonialiste que les Vénézuéliens n'accepteront jamais. Pour le Venezuela, a-t-il souligné, les États-Unis viennent de consommer leur politique des violations des engagements signés par le sous-secrétaire d'État nord-américain Brian Nichols et par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez en septembre dernier à Doha. Ce document proclamait l'élimination complète des mesures coercitives unilatérales au moment de la diffusion de la convocation des élections présidentielles prévues fin juillet. Caracas a averti que la décision des États-Unis de maintenir le harcèlement à l'encontre des PDVSA, la compagnie vénézuélienne de pétrole, nuit aussi à leurs investissements et intérêts dans l'industrie pétrolière vénézuélienne et aura un impact négatif sur les marchés énergétiques mondiaux, souligne un communiqué lu par le chef de la diplomatie vénézuélienne. La Cour internationale de justice de La Haye a fixé au 30 avril et au 1er mai la tenue des audiences publiques pour analyser la dénonciation du Mexique à l'encontre de l'Équateur suite au raid policier dans l'ambassade mexicaine à Quito. Ce fait s'est suivi de l'arrestation illégale de l'ex-vice-président équatorien Jorge Glass, à qui le Mexique avait octroyé l'asile diplomatique. Le Mexique a demandé à la Haute Cour des Nations Unies la suspension de l'Équateur de l'ONU jusqu'à ce qu'il présente des excuses publiques. La requête mexicaine dénonce l'entrée non autorisée d'une quinzaine d'agents d'élite dans l'ambassade, l'agression contre Roberto Canseco, haut fonctionnaire de la mission diplomatique mexicaine, et l'arrestation de Jorge Glass. La cote des popularités du président équatorien Daniel Noboa a chuté ces derniers jours. La page web de la station Radio Pichincha relaie une analyse du conseiller politique Antonio Ricaurte, soulignant que le taux de désapprobation du président Noboa est passé de 28 à 69% à cause des coupures des courants et du raid policier dans l'ambassade du Mexique à Quito. Pour Antonio Ricaurte, le manque des prévisions quant à la crise énergétique, la promesse de suspendre les coupures de courant et leur augmentation postérieure jouent pour beaucoup dans la chute de la popularité et la crédibilité du président. Il soutient qu'aussi bien la crise énergétique que l'irruption des forces dans l'ambassade du Mexique le 5 avril dernier auront un reflet négatif dans la consultation populaire de dimanche prochain pourvue par le gouvernement équatorien. Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a proposé à son homologue colombien, Gustavo Petro, de relancer l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines. « Nous avons aujourd'hui une opportunité extraordinaire de travailler pour unifier l'Amérique du Sud, pour que la Colombie puisse peut-être participer au BRICS », a signalé le président brésilien. Peu après ses conversations officielles avec le président colombien à Bogota. Après avoir proclamé la naissance d'une nouvelle relation entre le Brésil et la Colombie, Lula a assuré qu'en tout ce qui dépendra de ces deux pays, le continent restera une zone de paix. Le président Petro a de son côté plaidé pour la construction d'une relation stratégique avec le Brésil, dans le but de promouvoir une intégration sud-américaine réelle et non rhétorique. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a salué ce jeudi les plans de réajustement néolibéral que le gouvernement du président Javier Milei est en train d'appliquer en Argentine. Elle a assuré, lors de la rencontre des printemps du FMI et de la Banque mondiale, que les actions du gouvernement Milei ont encouragé les investissements privés et permis un ralentissement de l'inflation. L'inflation a certes diminué en mars pour le troisième mois consécutif, mais d'après une étude réalisée par l'économiste Martín González Rosada de l'Université Torquato di Tella, 3 200 000 Argentins ont grossi les rangs de la pauvreté depuis l'accession de Milei à la présidence en décembre dernier. La stagnation des salaires, les coupes budgétaires et les licenciements massifs dans l'administration publique prônés par Milei sont à l'origine d'un mécontentement social croissant. La première réunion en matière de sécurité publique du consensus de Brasilia analyse depuis hier à Santiago du Chili la coopération régionale dans la lutte contre les crimes organisés transnationaux. La perception persistante d'insécurité dans nos peuples est un défi commun, a indiqué le président chilien Gabriel Boric à l'ouverture de la rencontre. Dans son discours, il a lancé une mise en garde sur l'existence des formes délictuelles chaque fois plus complexes. Il a donc plaidé pour la coordination du travail dans les frontières, l'échange d'expériences en matière de détention en prison et de réinsertion dans la société des personnes ayant purgé des peines de prison. La procureure responsable de la lutte contre les crimes organisés au Panama, Issy Soto, a requis jeudi la peine maximale pour blanchiment d'argent, 12 ans de prison, contre les deux principaux responsables de l'affaire Panama Papers. Il s'agit des avocats Jürgen Mossack et Ramon Fonseca. La procureure a signalé que les deux prévenus ont reçu et transféré des fonds provenant d'activités illicites en Allemagne et en Argentine et dissimulés. Couvert et fourni des fausses informations à des entités bancaires pour ouvrir des comptes et dissimuler la propriété d'actifs. Le cabinet d'avocats aurait également servi à garder l'argent provenant d'une vaste escroquerie en Argentine. La procureure a requis la condamnation des 24 autres personnes impliquées, principalement d'anciens employés de la société, et demandé l'acquittement de trois autres.
Écoutez les émissions en français de Radio Havane, Cuba. Restez à l'écoute.
Voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui, notre commentaire habituel. La coopération entre Cuba et les États-Unis en matière d'immigration a été efficace. Par Roberto Morejón. La reprise en 2022 de pourparlers entre Cuba et les États-Unis sur les questions migratoires a représenté une étape positive au milieu des tensions épineuses. Et c'est pourquoi le quatrième cycle à Washington a également été efficace. La délégation cubaine, dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cossío, a profité de l'occasion pour souligner l'impact des dispositions extrêmes du blocus sur ce que la Havane considère comme une augmentation sans précédent du flux migratoire à partir de 2019. Peu avant, plus de 240 mesures étaient entrées en vigueur pour resserrer le siège sous l'administration du président de l'époque, Donald Trump, qui a renvoyé la plus grande des Antilles sur la liste infâme des pays qui, aux yeux de Washington, parrainent le terrorisme. La combinaison de procédures néfastes a influencé les pénuries de devises étrangères, les obstacles aux relations interbancaires et d'investissement, l'approvisionnement en carburant et l'arrivée des visiteurs étrangers à Cuba. La détérioration du niveau de vie est directement liée à la migration des Cubains, y compris la migration irrégulière. En d'autres termes, comme Cuba l'a souligné à Washington, il y a lieu de s'inquiéter des politiques et des pratiques qui encouragent la migration irrégulière. Pillée par des plateformes à réseau qui bénéficient des subventions financières de la part des États-Unis. Mais il n'y a pas que le boycott et la liste unilatérale qui incitent au départ. Il y a aussi les privilèges qui leur sont accordés s'ils se faufilent dans le pouvoir du Nord et la loi d'ajustement cubain qui leur est exclusive. Il existe une autre incitation à la migration pour les personnes qui ne profiteraient pas de cette alternative si elle avait accès à des visas de non-migrants au consulat de la Havane pour rendre visite à leurs proches, car s'ils doivent à présent les demander dans du pays tiers. Un autre fait douloureux découle de l'hostilité de la riche nation voisine. Le pays de José Martí ayant été placé sur la liste de soutien au terrorisme, les voyageurs du pays tiers ont du mal à se déplacer librement et sans représailles vers la nation antillaise. Tous ces points ont été abordés lors de ce cycle et d'autres cycles de négociations sur les questions migratoires, ce qui constitue une excellente occasion de répondre, au moins en partie,
aux préoccupations des deux pays. Comme lors des réunions précédentes, Cuba s'est prononcé en faveur d'une migration régulière, sûre et ordonnée à Washington.
Chers amis, nous vous remercions de votre aimable attention. Tania, Reinaldo, Dagoberto à la technique et moi, Francisco, au micro, nous vous invitons à capter nos émissions quotidiennes à la même heure ou à visiter notre page web www.radiohcc.cu.
Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
A continuación, Radio Habana Cuba comienza su programación en idioma creol por frecuencia modulada e internet.
Aptitude auditeur, aujourd'hui à ce 19 avril 2024, ça nous porte pour nous à la nouvelle internationale là. Nous allons aller dans le pays Venezuela et l'autre pays qui fait actualité dans le monde là. Nous connaissons que le pays d'Haïti gagne que y a fait le journal moniteur officiel là qui paraît que y a accepté conseil présidentiel là qui est pour y a travail pour installer là. Il n'y a pas parlé dans qui jour il a installé là, c'est dans la semaine ou bien à partir de mardi. Dans la semaine qui vient, il a cherché à installer pour mettre le point en sécurité pour inviter l'international là à venir assister dans la grosse histoire qui passe dans le pays d'Haïti. Après ça, dans le pays d'Haïti, dans la zone périphérique, dans la zone Kafoua, qui voit que Bandi a été fait parler de yo. Et nous allons aller dans l'autre pays qui a fait actualité à nous dire tout auditeur. Était branché sur fréquence 102.5 FM dans l'émission créole là depuis La Havane. Nous connaissons que gagnent un général dans la force l'armée Kenya. Dans l'hélicoptère est tombé. Gagné chef là est mort avec plusieurs et regardé dans l'armée qui est mort pendant que il était allé dans mission. C'est toute nouvelle ça que nous gagnons pour nous dans la nouvelle internationale là. Et il a lieu à venir à une série de nouvelles et culturelles. Après ça, nous gagnons tout correspondant Jean-Marcel et depuis et Port de Paix qui a venu à une série de nouvelles. Ça fait actualité dans le pays d'Haïti. On a dit tout auditeur et branché, on a venu avec l'éphéméride.
Mais ça t'est passé dans mon âme.
Où
Toujours comme je dis, 19 avril 1961, et peuple cubain te convainc et troupe mercenaire dans Playon qui va être blahi. Je t'ai sorti États-Unis, mais t'es inscrit comme une parmi baga qui pi et gloire dans histoire pays Cuba dans patria signifie que premier grand renversement en face impérialiste Yankee en Amérique latine. Seulement 3 jours agression milicien yo avec pilote yo avec peuple là qui était habillé en vert olive en bas direction commandant en chef Fidel Castro Ruz. Mais il a gagné bataille ça contre mercenaires ça. Yo te par dans un gouvernement qui était appuyé par gouvernement États-Unis. Et dans l'événement ça te commémoration victoire Playon dans théâtre Chaplin 19 avril 1965 et commandant en chef Fidel Castro te exprimé. Nous je comme je dis en 1963 te créé institution documentaire information scientifique la technique là. Nous, comme je dis, en 1964, réalisé une veillée solennellement dans le théâtre Chaplin, je dis qui est le Calmas. À l'occasion, 3e anniversaire victoire par la Yungna, et dans le jour ça, intervenu et commandant en chef Fidel Castro, contre impérialiste, mais qui capable, qui était passé dans Yungna tout et multiplié, sous question de pousser d'eau, mercenaires à auto dans la bataille Playon. Nous, comme je dis, en 2011, t'es clôturé 5e et 6e congrès parti communiste Cuba en présence leader Fidel Castro, général et force armée. T'es accompagné Raoul Castro tout. Et élu premier secrétaire comité central là, t'es entré en plein air, éternel commandant chef révolution. Nous, comme je dis, en 2016, qui, dans qui zone, une intervention spéciale commandant en chef Fidel Castro pendant clôture 7e congrès et parti communiste Cuba, qui t'est commencé pendant 4 jours dans le palais convention La Havane.
Campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar de matar de vengar y de vencer. Se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto. Se llenó el cielo
vini avec nouvelle l'autre bord de l'eau.
N'a pas commencé à nouvelle internationale là, n'a salué tout le monde qui a suivi, ni dans Cuba, ni international là, qui a suivi l'émission créole là depuis La Havane. Nous pour aller dans le pays Venezuela, qui boke dans le prince unité comme élément transformateur pour débat dans Venezuela. Pour plus de détails, nan yo mette en principe unité comme élément transformateur de secrétaire exécutif là Alba TCB et Jorge Amesa pour l'ouvrir jodi nan deuxième journée nan rencontre ça pour alternativement social mondial qui assistait représentant des 60 pays. Mais qui était convoqué tout par Alliance Bolivarienne pour peuple là et Amérique là et traité et commerce là et on parlait de Alba TCP institution Simon Bolivar que objectif li c'est une union et un schéma un agenda et pour faire face à offensive impérialiste dans région dans monde là. Pour vendredi, je prévois tout à aborder un sujet, son sujet, une alternative sociale mondiale qui est présentée par que institution tricontinentale là, investigation sociale là. Nous pour aller dans pays Iran, situation rapide de attaque et missiles. Et agence radio télévision pays Iran démenti jodi a rapport qui fait information qui fait qu'on est attaque avec missile contre république islam et islamique là après activer un système défense aérienne dans plusieurs localités selon publication yoté terrible yoté parlé sur question ça dans objectif et suspect espacio aérien yo. Yo parle que yon base militaire qui située dans nord-est et dans ville là. La poursuite de nouvelles internationales ça va faire actualité dans monde là qui bon que États-Unis admission Palestine comme membre en pleine dans ONU. Pour plus de détails, délégation ça dans États-Unis en veto jeudi. Les mandé tout pour présenter que par présent et par palestinien et pour adhésion yo comme membre en pleine ONU nan unique vote et compte et cap attend projet ça utiliser tout privilège exclusif yo nan 5 membres yo permanent nan conseil sécurité a été provoqué échec et projet résolution ça élaboré et pour approuver pour porter jusqu'à assemblée générale là dans et l'autre et votation yo n'a pour soi nouvelle internationale ça fait actualité dans monde là bon côté famille Kennedy appuyer Biden dans campagne électorale là pour plus de détails président États-Unis Joel Biden te recevoir jeudi appui la famille Kennedy dans campagne ça réélection ça 2024 là et pendant événement ça célébré dans ville que Philadelphie dans y a parlé Pennsylvanie dans zone na, naissance li plus de dizaines membres de Kennedy family te fait en public là appui avec objectif hein, pour profiter et de et Kennedy défendant une histoire famille. Yo parlé famille démocrate là mais que dans propre temps ça te fait remarquer tout est rejeté et carrière présidentielle ça qui va te former yo indépendant yo parmi de yo même des avocats environnement Robert F Kennedy. Nan poursuiv ap nouvel internasyonal la gon seri de peyi ki pa d'akòr ke sa Ekwater te fè ya te la polis te envayi ambasad Meksik la nan Kito ki bò ke e vis prezidan Gras la ke kite pran azil politik an gon seri de peyi ki ap retire k ap koupe relasyon avèk peyi sa peyi Honduras wap tande ke li retire personnel yo diplomatik la nan peyi Ekwater. Le gouvernement Honduras là fait connait à président Mexique là André Manuel López Obrador mais li retiré personnel yo diplomatique yo dans pays Équateur encore dans conférence de presse habituellement président Mexique là qui bol que remercie collègue li Honduras là Xiomara Castro pour belge geste solidarité ça il fait on Honduras rejoint Venezuela qui t'a fait ça Mexique ben qui t'a retiré tout et fonctionnaire diplomatique rejoint Venezuela qui t'a fait ça Mexique ben qui t'a retiré tout et fonctionnaire diplomatique
Comandante, grandes han sido tus avatares, como sublime fue tu canto de redención.
Se capacité pour bien ramasser un moment historique. C'est responsabilité nous pour changer tout ça qui doit changer, c'est égalité et liberté totale capitale. C'est pour nous joindre traitement, monde doit joindre. Et puis nous-mêmes tout, c'est pour nous traiter tout le monde tant que monde. C'est pour nous casser chaîne qui marre nous pour contre nous. Et puis tout, c'est pour nous traiter tout.
Yon douane lancé par pays Iran contre régime sioniste. Israël et tension ça dans Moyen-Orient qui botte monté yon clan nan point qui capable être coupé et par couteau. L'action iranienne est une réponse à l'attaque là injustifiable à Tel Aviv comme son consulat dans Syrie où des en pile monde qui était tué yoté mouri qui compris deux généraux et cinq autres officiels yo et gardiens révolution islamique là. Qui pas nécessairement être un expert pour comprendre ça, une telle agression qui de graves conséquences là dans la région et depuis quelques jours, il était clair tant que intérieur au dehors Israël qu'une contre-offensive là y était préparée. Benjamin Netanyahu menacé attaquer Iran. Qui pas mettre monde là mais il envoie mais ça signifie que guerre ça généralisé pour si là qui pral impliqué qui a veillé ou non en pile pays dans l'Union européenne étroitement allé Tel Aviv et principalement partenaire États-Unis en effet Washington et l'Angleterre et l'autre capitale travaillent activement pour dissoudre régime sioniste qui agit comme de facto qui pas pour cas humanitaire mais pour kembe l'approvisionnement pétrole et brutio dans l'Occident. Yon guerre dans région pral capable pour première victime yo trafic yo maritime yo par canal Suez qui te mette en difficulté puissance yo qui bo vienne qui vini to alimenter pétrole yo qui vini alimenter pétrole yo et plus l'autre risque yo et qui l'utilisation éventuellement nucléaire yo non déclaré qui et au téjoine nommé Israël. Il s'agit d'un état qui montrait un signe évident d'irresponsabilité totale et de mépris absolu, nomio qui pi élémentaire entre les peuples et nations, qui voit que y a tant n'importe quel comportement mais brutal yo soit. Il s'agit pas seulement d'un problème de pouvoir, parce que pratique là n'est en ou pas un autre représenté du mouvement soniste international là, qui pas rien ouais ni avec religion et avec les peuples là juifs là non soniste. Solution pas cap remplacer Netanyahu, mais tout te démantelé un tissu dans mouvement qui repose et fanatisme rapidement ouais dans le monde là son réseau économique et financier lié à quoi c'est totalement pays à capitaliste là dans occident et en plus et sur planète là tout. Pour nous finir et commenter ça, si la haute expliqué et toute similitude entre sionisme et nazisme allemand ou Adolf Hitler, qui pas que en tête visible, mais qui ont force qui était dehors, qui pas été complètement détruit par défaite yo et pendant cette deuxième guerre mondiale là. Nous faites tendre un commentaire qui fait tout parler sur que son grand tension ça dans le pays Iran sur que son nucléaire là avec le pays Israël. Sous table contrôle là, nous avons gagné Eduardo et Guy Jean-Just pour Nouvelle Internationale. Demain, nous avons même laissé. Nous avons quitté une belle musique.